me sens bien petit pour apporter encore la parole de Dieu. Mais bon, je vais essayer de vous apporter simplement le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur un passage. J'aimerais qu'on le lise ensemble dans Matthieu 25, verset 1er. Matthieu 25, verset 1er. Voilà, on va lire quelques textes ce matin. Je vous invite à prendre votre Bible si vous l'avez. Matthieu 25, verset 1er. Et on lira jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Voilà une parabole que Jésus a apportée et qui est encore une bénédiction pour nos vies, qui est encore un avertissement. La parole de Dieu, c'est un guide. Et on connaît le guide du routard, on connaît le guide pour aller en montagne. Et dans ces guides, il y a toutes sortes de panneaux. Il y a les panneaux interdits, parfois. Il y a les panneaux d'avertissement et il y a les panneaux de direction. Et la Bible, on pourrait dire que c'est aussi un guide pour la marche chrétienne, un guide pour notre vie au quotidien. Et comme tous les guides dans ce livre qui est la parole de Dieu, il y a des avertissements, il y a des directions, beaucoup de directions, mais j'aimerais m'arrêter sur cet avertissement ce matin. Et cet avertissement, c'est la dernière phrase que nous avons lue. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Veillez donc. Nous avons besoin de veiller au quotidien, de veiller sur ces indicateurs, ces panneaux qui sont là pour nous arrêter, pour nous montrer la direction, pour nous aider à aller dans la bonne voie. Je me rappelle, il y a quelques années, alors que je livrais des matelas, j'étais du côté du col d'Alos. Plusieurs sont allés là-bas, ouais. Station d'Alos et tout. Et on peut rattraper la route pour aller jusqu'à Seine-les-Alpes, revenir sur Gap. Et c'était en plein hiver et je me suis dit, ben tiens, vu que je suis là, au lieu de faire le grand tour et retourner à Gap, je vais passer par ce col. Alors je prends cette route confiant et à mon allure habituelle, toujours dans les limitations, hein, à mon allure habituelle, je prends cette route et je monte. Et au départ, c'était une route normale. Et à force de monter, je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, la route se rétrécissait. Je me suis dit, là, c'est pas bon. En général, quand la route se rétrécit, c'est pas bon. Et il y avait un mur de neige à côté de moi qui tout ce mur faisait 1m50, 1m60. Et à droite, j'avais le précipice. Et je me suis dit, si je continue, comment je vais faire? Je ne peux pas faire demi-tour. Alors je monte. À un moment, le mur était si proche qu'il me poussait dans le précipice. Alors j'essayais d'accélérer un peu pour pas tomber. Et j'arrive en haut. Au bout de bien une demi-heure de galère où j'ai prié, je crois que j'ai jamais prié comme ça en voiture, et je priais. Et arrivé là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Un grand mur de neige devant moi. Et j'arrive là-haut et je me dis, comment tu fais maintenant? Tu es là, il y a de la glace, tu ne peux pas faire demi-tour en camion, comment tu fais? Alors j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi parce que sinon je vais passer la nuit ici et il fait froid en général dans l'école. Et j'ai réussi à faire demi-tour, je ne sais pas par quel miracle, sans abîmer mon camion. Je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi à faire demi-tour et à descendre. Et tout le long de la descente, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ils n'ont même pas prévenu que la route était fermée. Ils n'ont même pas dit que c'était bloqué. Mais franchement, quoi, c'est ça. Ça m'énervait. J'avais un peu la colère comme ça. Et j'arrive en bas et d'un coup, je vois, il y avait marqué route barrée. Et je me suis dit non, je suis passé devant sans le voir. J'ai perdu une heure et demie seulement parce que je n'ai pas regardé le panneau. Et j'aimerais vous dire que dans nos vies, parfois, il y a des panneaux. On les trouve dans la parole de Dieu. Et ces panneaux nous aident. Parce que des fois, il y a un danger. Mais des fois aussi, c'est une direction qui nous amène nulle part. Et j'aimerais pas que ce matin, on puisse prendre un chemin et arriver en haut et voir que la porte est fermée. Monter la montagne de Dieu et aller devant la porte et se dire « Mais ça y est, je vais rencontrer l'époux, je vais rencontrer celui qui avec qui je vais passer l'éternité » et trouver la porte fermée. Tout ça parce que je n'ai pas vu l'avertissement. Tout ça parce que je n'ai pas pris garde de ce que Jésus avait à me dire. Une personne sage m'a dit un jour: vis toutes tes journées comme si c'était le dernier. Vis toutes tes journées comme si c'était le dernier. Et ça m'a interpellé. Alors que j'étais pas bien et que je me disais, oui, mais je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire, je comprends pas. Et là, cette personne me dit, mais vis toutes tes journées comme si c'était le dernier. Et je me suis dit, mais oui, si on vit toutes les journées comme si c'était le dernier, comme si c'était le dernier jour, ça change notre manière de voir, hein. Bien sûr, on aime les projets, on aime voir plus loin, et le Seigneur nous amène à voir plus loin. Mais si on vit chaque jour comme si c'était le dernier, peut-être on passerait moins de temps à faire des choses inutiles. Et peut-être je passerais moins de temps à faire des choses inutiles. Peut-être je passerais moins de temps à parler sur mon frère ou ma sœur, si c'était le dernier. Peut-être je n'aurais pas peur de parler aux personnes que j'aime dans ma famille, comme quoi Jésus revient bientôt. Peut-être je n'aurais pas peur de proclamer la parole chaque jour et de dire à tous ceux que je croise, mais Jésus revient bientôt, il faut que tu veilles sur ton âme. Si chaque jour était le dernier pour nous, peut-être qu'on vivrait autrement. Peut-être qu'on relativiserait certaines choses. J'aimerais te dire que personne ne sait quel est le jour ni l'heure. La Bible le dit. Personne ne sait ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Mais pourquoi attendre le dernier jour pour agir? Agissons au quotidien. Agissons au quotidien. On va un peu plus se pencher sur ces vierges qui sont parlées là. Et on voit que ces vierges vont à la rencontre de Jésus. Et on a vu il y a quelques semaines qu'en parlant de l'unité de l'Église, en parlant de l'unité qu'on peut avoir avec Jésus, que l'Église est appelée l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Il est dit dans la parole de Dieu que l'épouse se prépare et qu'elle s'est parée. Elle lui a été donnée de se revêtir de fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Comme une vierge pure, de fin lin, blanc, sans tache. Les vierges de cette parabole, ce sont l'Église. Et on peut voir même nos vies personnelles dans cette image qui est donnée des vierges, nos vies personnelles, chacun d'entre nous, on peut se voir dans ce passage. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qui différencie les vierges folles des vierges sages? Qu'est-ce qui différencie les vierges folles des vierges sages? Quand on regarde le premier verset, il est dit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Dans le premier verset, on ne voit pas de différence. Toutes sont pures, toutes sont vierges, toutes ont une lampe et toutes vont à la rencontre de Jésus. Toutes. Là, il n'y a pas de différence. En apparence, il n'y a pas de différence. Parfois, dans nos vies, il peut ne pas avoir de différence dans l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Entre ces vierges, il n'y a pas de différence. entre telle et telle personne croyante. Il n'y a pas de différence. Quand on regarde avec les yeux de l'homme, quand on regarde les actions, quand on regarde les paroles, quand on regarde les moments dans l'église, oui, on sert, on donne, on lève les mains pendant les chants, on chante de tout notre cœur. Est-ce qu'il y a une différence? Non, mais est-ce qu'il dans le cœur, il y a une différence? Est-ce que dans notre cœur, il y a une différence? J'aimerais ouvrir une parenthèse. En apparence, tout semble parfait, pur, sans tache. On peut tous sembler avoir cette lampe. Tous semblaient se préparer pour le retour de Jésus. Mais combien font partie, et je me parle à moi-même aussi, combien font partie de ces vierges folles qui ont négligé la présence de Dieu dans leur vie, qui ont négligé quelque chose de particulier. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Il dit que toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes. Dans la fin des temps, il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. On parle de toutes. Toutes se préparent même pour aller à la rencontre. Vous imaginez un peu? Je me suis posé la question quand même. Comment elles font pour se préparer, celles qui n'ont pas d'huile? Elles étaient en train de préparer leur lampe. Et au dernier moment, en fait, elles prennent leur lampe et elles se disent « Tiens, on va mettre l'huile dans les lampes, on va voir si c'est bon. » Et d'un coup, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas pris d'huile. Comment ça se fait qu'au dernier moment, elles s'en sont aperçues? Et pas au début. Alors, comment est-il possible d'être au même endroit, de faire les mêmes choses, d'être appelé à la même chose, au même salut, au même service, et de ne pas finir pareil. Alors, pendant quelques minutes, j'aimerais comparer la vie de deux hommes qui ont eu la même place, la vie de deux hommes qui ont eu le même appel, la vie de deux hommes qui ont vécu en apparence les mêmes choses, mais qui n'ont pas fini pareil. C'est Saül et David. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 9. Verset 2. On va lire que quelques versets. On va survoler, sinon ça pourrait rester jusqu'à ce soir. Mais on va survoler un peu ce passage. Donc, 1 Samuel, chapitre 9, verset 2. « Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. » Verset 16. « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. » 1 Samuel, chapitre 10, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Verset 6. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Et pour finir, le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. On voit Saül. Saül qui est un jeune homme comme un autre, qui est un jeune homme qui est dit qu'il est beau et qu'il est jeune et beau, un des enfants d'Israël. Saül qui est appelé à régner sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait seulement Dieu comme roi et ils ont décidé de vouloir un roi comme il y en avait dans leurs ennemis. Ils voulaient un roi. Et ils ont demandé un roi et Dieu leur a donné un roi, Saül. Saül arrive et il est oint par Samuel. Il est rempli de l'Esprit. Il nous est dit que quand il se détourne de la présence de Samuel, son cœur se retourna. Dieu lui donna un nouveau cœur, une expérience particulière de vie avec Dieu, vraiment une expérience particulière de rempli de l'Esprit. Vraiment, sa vie change. Sa vie change. Cet homme est appelé, il est oint de Dieu. un homme mis à part. Quand on connaît la vie de Saül, ça paraît étonnant que ça commence comme ça. Hein. En général, si ça commence comme ça, tout ce qui commence bien finit bien, c'est pas ça? Non. En tout cas, là, ça commence bien. Là, ça commence bien. C'est un bon moment. On va voir David dans 1 Samuel, chapitre 16. Un court passage. À partir du verset 10. 1 Samuel, chapitre 16, verset 10. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car ne nous nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Quand on compare un peu la vie de Samuel et de Saül et de David, on voit que les deux étaient beaux. Avec Dieu, on est beaux, hein? Amen. Hein? On est des créatures merveilleuses, nous dit la Bible. Hein? Ils étaient beaux et ils avaient une belle figure. On voit que les deux ont été choisis par Dieu. Personnellement, ils avaient un appel sur leur vie. Les deux ont été oints par l'huile, oints de c'est l'image de l'esprit sur leur vie. Les deux ont vécu une expérience particulière. Il nous est dit de David qu'il a été saisi par l'esprit. Il nous est dit de Saül que quand il se retourna, son cœur changea. Ils ont vécu une expérience particulière. Tous les deux, leur vie commence bien. Et tous les deux vont servir pour le peuple d'Israël. On pourrait se dire, vu qu'ils ont commencé pareil, de la même manière, pratiquement avec les mêmes paroles, alors la vie sera pareille, la fin sera pareille. Mais non, ça ne s'est pas passé comme prévu. Encore une ressemblance, c'est leur premier combat, leur première victoire. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le premier combat de Saül et le premier combat de David. Celui de David, vous le connaissez, c'est David et Goliath. David et Goliath. David vient et il trouve ça dur, il trouve ça. Il n'accepte pas qu'un homme puisse défier le peuple d'Israël. Il n'accepte pas ça. Alors il prend dans son petit sac des pierres polies. Il va prendre une fronde et il va aller au combat, combattre Goliath. Et vous savez tous que Dieu va accomplir une victoire au travers des mains de David, fabuleuse. Le peuple d'Israël va être libéré. Mais j'aimerais qu'on lise le premier combat de Saül. 1 Samuel 11. Comme je vous ai dit, on va lire quelques passages. Hein quelques passages. 1 Samuel 11, verset 1er. Nachash, l'ammonite, vient assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, de Saül et dire ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer ? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül entendit ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent au messager qui était venu, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galaad. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès, qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül règnera-t-il sur nous ? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Amen. Premier moment où Saül s'engage dans la vie du peuple, il s'engage en quelque sorte dans sa royauté, la royauté qui lui a été donnée. Il va combattre les ennemis d'Israël et il va vivre une victoire fabuleuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué juste cette petite phrase. Saül fut saisi par l'Esprit de Dieu pour combattre. Saül fut saisi par l'Esprit de Dieu. Un homme qui vivait quand même une relation avec Dieu. Un homme qui avait quelque chose quand même de particulier, comme David. Tous deux avaient le zèle. Tous deux étaient prêts à combattre pour Israël. Tous deux étaient prêts à vivre des moments forts avec Dieu, à vivre des victoires fabuleuses. Et j'aimerais dire que on peut tous bien commencer. On peut tous même vivre des victoires. Mais le plus important, c'est de veiller pour que la fin soit aussi une victoire, pour que la fin soit aussi bonne. L'Ecclésiaste dit, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose. Dans la vie chrétienne, on peut avancer, on peut être là chaque jour et même combattre pour Dieu. Mais où en est notre cœur? Où en sont notre âme, notre esprit? Où en est notre vie? Oui, j'ai été un combattant de Dieu. Saül aurait pu le dire. J'ai été un combattant de Dieu. J'ai vu des choses fabuleuses. J'ai vécu des miracles. J'ai vu des choses extraordinaires. Mais où était son cœur? Au fur et à mesure qu'il a régné, au fur et à mesure qu'il a avancé, son cœur s'est comme éloigné de Dieu. Son cœur s'est comme séparé, à négliger, à ne plus veiller sur son âme. On va aller à la fin de la vie de Saül et la vie de David. Je vais le lire pour vous. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces circoncis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül, ses trois fils et celui qui portait ses armes. La fin de Saül est tragique. La fin de Saül finit par un suicide. Finit par un moment où il est seulement avec son serviteur. Il crie à Dieu parce qu'il sait que Dieu n'est plus avec lui. Il est là avec son serviteur. Il lui demande de le tuer. Dernier recours. Enlève-moi la vie. Je ne veux pas que ces hommes me saisissent, qui me torturent, qui fassent des choses avec mon corps. Enlève-moi la vie. Enlève-moi la vie. Comment un homme qui a commencé si bien, un homme qui était rempli de l'esprit, finit d'une manière si horrible, si tragique. David, lui, se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. 40 ans, il a régné. Et Pierre nous dit dans les Actes que il parle de David et il dit « Homme frère, qu'il ne me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » J'aimerais m'arrêter juste quelques secondes. Vous avez vu comment il appelle David ? Le mot qu'il dit, patriarche, patriarche. C'était un mot qu'on utilisait que pour les pères de l'Église. C'était un mot qu'on utilisait pour Abraham, qui est considéré comme le père de l'Église, le père des croyants. Il appelle David patriarche. Lui qui avait bien commencé, qui a chuté aussi. Mais il s'est passé quelque chose avec David. Quelque chose de différent que d'avec Saül. Saül est mort dans les choses horribles, dans la détresse. Et David fut appelé patriarche. Patriarche. Un père de l'Église. Comment peut-il avoir deux fins si opposées ? Comment c'est possible de commencer pareil, de la même manière, et finir différemment à ce point-là ? Pour finir, j'aimerais qu'on reprenne notre texte de départ. Quelle était la différence entre les vierges folles et les vierges sages ? Quelle était la différence entre Saül et entre David ? Matthieu 25, verset 1er. On le relit ensemble. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les 5 vierges folles avaient négligé quelque chose de fondamental, quelque chose de prioritaire pour leur vie. Il ne nous est dit pas qu'elles manquaient d'huile, il nous est dit qu'elles n'avaient pas pris d'huile. Elles n'avaient pas pris d'huile. Elles en avaient parce que leur lampe était en train de s'éteindre. Et c'est peut-être de l'huile qu'elles avaient mis il y a longtemps. Au début, quand elles vivaient une relation avec Dieu, et puis petit à petit, ça s'est éteint. Mais elles n'avaient pas prévu que l'huile irait jusqu'au bout. Elles n'avaient pas prévu d'amener de l'huile avec elles. Saül a désobéi à l'Éternel plusieurs fois, sans réellement se repentir. Il avait l'apparence de la piété, mais a renié ce qui en fait la force, comme dit ce verset. Alors l'Éternel s'est retiré de lui. On aurait pu parler de Samson, qui ne savait pas que l'Éternel n'était plus avec lui. On aurait pu parler de Démas, que Paul dira : Il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Combien d'hommes, combien de femmes négligent la présence de Dieu dans leur vie et ne se rendent même pas compte, qu'ils n'ont pas d'huile avec eux. J'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, combien on a besoin au quotidien de chercher la face de Dieu. Combien on a besoin au quotidien de rechercher le Saint-Esprit dans nos vies. Combien on a besoin au quotidien d'être renouvelé dans l'Esprit, renouvelé dans notre âme. Combien on a besoin de connaître encore la présence de Dieu dans nos cœurs. Ces vierges folles avaient une lampe. Les sages aussi. Quelle est cette lampe où l'huile est à l'intérieur ? Quelle est cette lampe ? J'ai aimé, début de la réunion, je crois que vraiment le Seigneur inspire toute chose. Il est dit dans la parole de Dieu : Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Ne sais-tu pas que tu es le temple ? Tu es cette lampe. Tu as cette lampe pour recevoir la présence de Dieu, pour recevoir l'Esprit Saint, pour recevoir l'onction de Dieu dans ta vie, sur ta vie. Mais cette lampe, elle peut être soit vide, soit pleine, soit presque vide et en train de s'éteindre. Ici, elle est en train de s'éteindre. Je te prie, mon frère, ma sœur, mais cherche la face de Dieu. Retrouve ce zèle, retrouve ce feu, retrouve cette onction pour ta vie. C'est une priorité. Il y a des panneaux d'avertissement dans la parole de Dieu. Il est bon de lire la parole de Dieu et de les trouver, de trouver quelle direction on doit prendre pour nos vies. Il est dit dans Deutéronome 4:9, « Seulement, prends garde à toi-même et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Je veux vraiment relire ce verset parce que c'est vraiment la parole pour nous encore aujourd'hui. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le salut, c'est acquis pour l'éternité. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que recevoir le Saint-Esprit, on le reçoit une fois et ça suffit. On n'a pas besoin de le pratiquer au quotidien. Non, je crois sincèrement. Et que la parole de Dieu va dans ce sens, qu'on a besoin de veiller chaque jour sur nos vies. Il y a des vierges folles, des vierges sages. On pourrait dire que c'est tous des croyants, tous des chrétiens. Et l'important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Alors, quelle folie de négliger ce qui allume notre vie, cette huile, cette lampe qui nous sert à nous éclairer chaque jour. C'est la présence de Dieu qui éclaire nos vies, qui nous aide à vivre une vie extraordinaire. Et on l'a dit, un Dieu de miracles pour nous. Et on croit que les miracles sont encore là. On le sait et on le voit encore. La foi, mes frères et sœurs, la foi, on a besoin de la foi, de la puissance de Dieu dans nos vies. On a besoin de cela. Alors, mon vase est-il rempli ou n'est-il pas rempli ? Je lis un dernier verset, on finit comme ça. Luc 12, verset 33 à 35. « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la taine ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et votre lampe allumée. » Qu'on puisse prendre cet enseignement pour nous, qu'on puisse prendre ce passage pour nous encore ce matin, qu'on puisse dire, est-ce que ma lampe est allumée ? On va prier, on va prendre un moment de prière, un moment dans la présence de Dieu. Je veux ceindre mes reins et je veux encore que ma lampe soit allumée. Je ne veux pas qu'elle soit en train de s'éteindre. Je ne veux pas qu'elle soit éteinte. Il n'est pas trop tard. S'il y a un panneau, c'est qu'on peut encore vivre au quotidien. On peut encore changer les choses. Jésus n'est pas encore revenu, même si on le désire. Il peut encore se passer des choses dans nos vies. On peut encore vivre cette onction. Et on a prié et on croit qu'il y a eu le miracle. Pour ceux qui se sont approchés, même pour leur vie, il y a eu le miracle. J'aimerais prier encore. Et que peut-être dans votre cœur, vous puissiez prier. Et dire, Seigneur, montre-moi si ma lampe est en train de s'éteindre. Parce que moi, je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'à la porte et te rencontrer. Seigneur, mon Dieu, merci encore pour ces moments. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous montre la voie chaque jour. Mais Seigneur, mon Dieu, nous ne voulons pas négliger ta présence. Nous ne voulons pas négliger nos cœurs, Seigneur mon Dieu, ce temple qui est le temple du Saint-Esprit. Alors montre-nous, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie. Empêche-nous, Seigneur, de monter jusqu'en haut et de finir notre vie en voyant la porte fermée. Mais aide-nous, Seigneur mon Dieu, à faire demi-tour s'il le faut. Seigneur, montre-nous, Seigneur, un autre chemin s'il le faut. Mais que Seigneur, notre lampe soit remplie. Je te prie de remplir mon frère, ma sœur, de ton Saint-Esprit. Je crois que pendant les moments de prière encore, tu vas remplir. Alors Seigneur, mon Dieu, bénis abondamment. Seigneur, renvoie ton esprit et ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Et merci pour ton esprit dans nos vies. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Amen.